Vous allez entendre un reportage territoire sur Radio Eulenspiegel 91.8. Ce vendredi 5 juin s'est déroulé le vernissage à la Galerie d'Aluin de l'exposition Table Noire. Nous nous y sommes rendus et nous avons rencontré plusieurs personnes. Dans l'ordre de passage, Mathéo, qui va nous présenter les artistes de Main de Maître. Ensuite, nous entendrons Bastien, Bernard et Andy. À la Galerie d'Aluin, jusqu'au 12 juillet, entrée libre, à ne pas manquer, et c'est à Cassel.
Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est notre petit rendez-vous régulier voilà, qu'on renouvelle au début de ce mois. Alors, bienvenue à tous pour cette nouvelle exposition. Une exposition, alors je vais vous raconter en deux mots comment elle est venue, comment on l'a imaginée et comment elle se concrétise. Alors, on avait nommé cette exposition au départ, quand on l'avait imaginée avec le collectif d'artistes à la galerie, on l'avait nommée Tableau Noir et on voulait qu'elle tourne autour des ambiances du polar et du mystère. Alors, finalement, elle tourne plus du côté du mystère que du côté du polar, mais on se laisse aussi emporter par les propositions qu'on peut avoir des artistes. Alors, ils sont nombre de 9 que nous exposons ce mois-ci, donc pour cette exposition, que nous conserverons ici jusqu'au 12 juillet. Voilà, donc on part sur des formats d'exposition un petit peu plus longs. Alors, je ne vais pas vous faire une visite guidée dans le détail, mais quand même, je voudrais vous présenter rapidement, en faisant un petit tour, les artistes que nous avons ici. Bastien, pour ses figures très originales. Hein, il y a quelque chose peut-être de l'ordre de la psychanalyse qui peut être fait avec ces œuvres-là qui sont très très sympathiques. Un Dunkerquois ici au fond, Pascal, qui, alors ce n'est pas sa seule qualité, hein, je parle du fait qu'il soit Dunkerquois, comme moi, mais il a touché à beaucoup de techniques picturales différentes et ici il nous propose deux œuvres graphiques issues de son parcours professionnel. Jonathan ici dans ce coin-là avec deux visions pour le coup effectivement très singulières de l'île, n'est-ce pas, et qui sont mises en parallèle avec des tableaux de Pierre Feret dont vous connaissez les œuvres qui sont exposées ici régulièrement à la galerie. Jérôme derrière Monsieur le Maire, un tableau de Jérôme Lefebvre de Rame que je ne présente plus, qui lui aussi est dunkerquois et invité régulier de la galerie. Et enfin, sur la partie gauche, dans ce compartiment, si je puis dire, dans cet espace, deux tableaux d'Annie Aquette, alors dont l'un en charbon, hein, avec une partie de charbon. Vous êtes allé vous-même chercher à 300 mètres sous terre
c'est... Non, je suis le marchand de charbon.
Ah, vous êtes le marchand de charbon.
J'ai pas osé aller dans la mine, ramassez-moi.
Mais c'est du charbon quand même.
Vrai charbon.
Et au fond, un tableau de David Duhaillon. David, que vous avez découvert durant l'exposition que nous venons de terminer le mois précédent et donc qui, de nouveau, propose l'un de ses tableaux. Et enfin, ici, deux œuvres au fond de Bernard Troublet. Également Bernard, que vous aviez découvert d'abord les années précédentes et puis le mois dernier ici à la galerie. Et une artiste lilloise, si je ne dis pas de bêtises, Aliénor. Alors, qui nous fait défaut ce soir, mais dont également vous découvrirez les œuvres qui sont extrêmement sympathiques. Et voilà un petit peu cet ensemble, un peu baroque pour le coup, plutôt on aurait dû appeler cette exposition baroque ou déclinaison baroque, mais qui je trouve voilà, forme un ensemble extrêmement intéressant sur une thématique qu'on a beaucoup aimé travailler pour ce mois-ci. Alors, je vous remercie tous de votre présence pour cette exposition. Et puis, le prochain rendez-vous que nous vous donnerons sera dimanche de la semaine prochaine, ici même, où nous aurons une petite surprise que vous verrez très bientôt passer sur les réseaux sociaux et également par mail pour ceux qui nous ont laissé leur contact. Vous êtes comme toujours bienvenue à la galerie de l'Hôtel d'Aluin. Et puis, sur ce, partageons, je vous propose, le verre de l'amitié. C'est quand même pour ça qu'on est venu.
Bastien, bonsoir.
Bonsoir.
Bastien, tu exposes à la galerie d'Aluin et tu t'appelles Bastien Bobko, originaire de Dunkerque, si je ne m'abuse. Pas du tout. Donc je me suis abusé. Ça arrive, c'est pas grave. Originaire de
Saint-Omer et actuellement vivant en baie de Somme, en Picardie.
Qu'est-ce qui t'avait partir là-bas?
Pour le coup, le travail. Je suis infographiste 3D, donc bien loin du papier et des crayons. Et du coup, c'est pour ça que quand je peux, je reviens aux bases, au papier et au crayon.
Au bercail.
C'est ça.
Tes tableaux par eux-mêmes, tes réalisations, tes toiles, c'est du noir et blanc, c'est une volonté?
Oui, parce que j'aime beaucoup le noir et blanc. Et je trouve qu'une image en noir et blanc, quand elle est bien faite, elle n'a pas besoin de couleur.
C'est fait au crayon? De quelle façon tu réalises ça?
C'est fait avec des crayons type Rotring, donc des pointes fines à l'encre de Chine noire, et des marqueurs à alcool, des feutres à alcool, en fait, pour les nuances de gris.
Ces œuvres, par elles-mêmes, elles sont uniques ou elles peuvent être faites à l'infini?
J'ai des œuvres uniques. Et après, je fais aussi des tirages de ces œuvres-là et aussi des compositions type planche naturaliste où je les mets en scène.
Tes inspirations par elles-mêmes te viennent comment? Puisque si je regarde ces tableaux, on voit des choses assez différentes de ce qu'on peut voir dans l'art. On voit un cœur, on voit une femme avec trois yeux, comme un peu un cyclope.
Oui, dire que je sais vraiment d'où ça vient, ce serait mentir. Mais en tout cas, j'essaie de prendre des choses qui ne sont pas censées être ensemble ou être fusionnées, que j'assemble.
Tu veux déranger d'une certaine façon? Non.
Je ne veux pas déranger,
faire questionner.
Mais ça ne dérange pas si ça questionne ou si ça dérange. Moi, en tout cas, elle ne me dérange pas.
Tu dessines à la demande? Comment ça se passe, ça?
Alors, je dessine très peu à la demande. Je dessine vraiment quand j'ai une idée qui me vient. Et surtout, une idée qui me semble assez bonne pour être mise sur papier. Parce
que... Alors, à partir de quel moment une idée est bonne?
Elle est bonne quand j'arrive à la voir dans ma tête, quand j'arrive à visualiser ce que ça peut donner.
Tu visualises avant et après tu dessines?
Alors, je visualise, je fais des croquis. Parfois, je peux faire aussi un peu de photo bashing, donc du montage rapide, ce genre de choses, avec des éléments. Et j'essaye de monter un petit peu le travail comme ça, ou parfois directement à l'encre. C'est assez variable, en fait. Ça dépend des périodes, des moments, des envies. Et j'ai pas vraiment de processus défini, en fait, quand je crée.
Tu travailles dans la journée, la nuit, le week-end?
Alors, c'est... souvent plutôt en soirée, quand tout est calme, et par petite session de 2-3 heures, enfin petite.
Tu te fais pas mal, quoi. Faut que ce soit un moment plaisir.
C'est ça, en fait, en général, ouais, quand je m'y mets, en fait, je fais que ça, je coupe tout, je me mets dans le dessin.
C'est un refuge pour toi?
Oui, c'est clairement un refuge. Comme d'autres ont le sport, là,
c'est le dessin.
C'est le dessin, et j'utilise en fait des techniques qui sont assez, assez lentes, mais assez aussi qui permettent de faire le vide. En fait, j'utilise beaucoup de points, ce qu'on appelle le dot work, pour vraiment venir faire les nuances, et puis des petites hachures, en fait. Donc il y a un côté assez, assez thérapeutique là-dedans.
Et ben, c'est formidable. Merci à toi.
Merci.
À la galerie d'Allumet, en compagnie de Bernard Troublé, œuvre sur papier.
Voilà, je travaille toutes sortes de papiers, papier artisanal, papier d'aquarelle, papier lisse comme un papier photo, voilà, et que je colle même quelquefois sur des toiles.
C'est arrivé de quelle façon, cette passion pour réaliser ces œuvres?
J'ai toujours dessiné, de tout petit. Et puis, disons que j'ai changé... Dans une carrière de commercial, j'ai eu un accident de voiture et j'ai fait une première exposition après une rencontre. Et c'est de là que ça a démarré en 1999.
On peut dire qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses œuvres de vous qui sont à travers l'Hexagone, même peut-être le monde.
Ben oui, même au travers, même au niveau du monde, parce que j'ai vendu des œuvres aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays.
La rencontre avec Noémie, elle se fait de quelle façon?
L'année dernière, j'étais venu sur Cassel et puis je suis rentré. Donc là, c'était Manon et puis après Noémie que j'ai contacté pour exposer ici. Et j'étais là le mois dernier, tout le mois.
Entendu. Vous allez prendre habitude, vous allez prendre...
Pas vraiment. Peut-être qu'il y a des œuvres qui resteront par ici, mais je pense retourner, redescendre dans le Vaucluse, retrouver un petit peu, parce que je travaille avec une galerie là-bas, et retrouver mes amis là-bas.
Le Vaucluse par lui-même, ça a été une source d'inspiration ?
Tout à fait, oui. Je travaille avec les ocres du Roussillon. Moi, j'aime bien changer. Une formation de styliste de mode, donc moi, chaque saison, c'est quelque chose de différent.
Merci à vous.
Voilà.
Belle expo.
Merci.
Anne Yaquette, bonsoir.
Bonsoir.
Belle expo au château d'Aluin.
Absolument.
Et les œuvres que vous nous présentez, c'est suite à une visite, un voyage en Pologne qui vous a
Absolument.
Particulièrement marqué.
Oui, ça m'a marqué définitivement. En fait, donc sur deux choses essentielles, difficiles mais essentielles. Donc en tant que nordiste, c'est la mine. Donc je suis descendue à 300 mètres de profondeur dans une mine et j'ai travaillé sur le ressenti.
Et qu'est-ce qu'on ressent justement à 300 mètres sous la terre ?
Qu'on est peu de choses.
Certaines peurs ?
Ouais, on est peu de choses en fait. Hein. Et on comprend que les gens peuvent être dans des périodes d'angoisse parce que c'est obscur autour, il n'y a pas forcément la lumière, il y a le soufre, il y a le grisou, voilà.
Et puis, tous les risques qui sont liés à cette exploitation minière.
Ouais. Oui, c'est ça. Mais bon, et en même temps, c'est très beau. C'est des lieux d'exception.
Certaines formes d'émotion qui se dégagent quand on arrive dans ce lieu.
Moi, je travaille beaucoup sur l'émotion dans tout mon travail. Il y a toujours un peu de l'émotion, de la poésie. Bon, là, c'est poétique.
Complètement.
Hein, c'est poétique. J'ai pas fait le mineur avec sa lampe et tout ça, non.
Il n'y a pas de stéréotype. On laisse l'ouverture à l'imagination.
J'aime bien m'en aller dans mes délires, dans mon ressenti. Donc, je travaille sur le ressenti, effectivement. Donc ressenti, c'est en même temps c'est le paradoxe de la mine avec la richesse qui en découle. C'est pour ça qu'il y a une feuille d'or en haut, un morceau des éclats d'or, et en dessous c'est le soufre, donc c'est le côté toxique de la mine avec l'obscurité autour, et en même temps ça brille un peu, ça hypnotise.
Cette visite en Pologne, elle vous a amené dans un lieu particulier qui démontre l'horreur parfois de l'humanité.
Ah, complètement. Alors là où il y a le plus d'horreur de l'humanité, c'est l'autre tableau, hein, puisque j'ai travaillé...
Justement, je venais sur cet autre tableau.
En fait, c'est le même voyage que j'ai fait, donc, où j'avais vu la mine, et je suis allée à Auschwitz, et c'est d'une puissance impressionnante. Et donc, on n'imagine pas les monstruosités qu'un homme peut faire à un autre homme. Le manque d'humanité, c'est pas possible. Et donc là, c'est le tableau que j'ai fait, c'est en même temps sur l'horreur et en même temps sur un clin d'œil très positif. Parce que j'ai lu beaucoup de très belles choses sur la générosité et de certaines personnes en souffrance qui donnaient à d'autres.
Cette personne que
là,
vous représentez, elle donne sa vie en fait.
Absolument. Donc à Auschwitz, l'idée c'est qu'il y avait un prisonnier qui se sauvait, il y en avait 10 qui mouraient dans un espace clos très petit, en les laissant mourir de faim. Mourir de faim avec les uns sur les autres, comme dans les wagons. Et donc la fin, c'était avec une injection létale dans le cœur pour achever l'horreur. Et donc dans l'histoire, qui est une histoire vraie, il y a un homme qui hurlait de peur parce qu'il allait mourir et aussi parce qu'il allait abandonner sa femme et ses enfants. Et il y avait là un prêtre qui avait aidé des juifs, donc un prisonnier. Il était arrivé là parce qu'il avait aidé des juifs. Et devant, c'est pour ça que ça s'appelle le cri, devant le cri de cet homme, il a décidé de prendre sa place. Donc dans cette espèce de case, je ne sais pas, de 3 mètres sur 3 mètres, je ne sais pas, en sous-sol, dans l'obscurité, avec un petit filet de lumière qu'on voit là ici. Et donc de donner sa vie pour aider quelqu'un. J'ai trouvé que c'était tellement hors norme. C'est le genre de choses dont on ne parle pas et qu'il faut justement mettre en avant, c'est la générosité qui va jusqu'au don de soi. Là, c'est vraiment le don de soi. Et l'histoire se termine, entre guillemets, bien, parce qu'à l'après-la-guerre, dans les années 60, le monsieur qui a conservé la vie, il a été reçu par le pape. Et donc, celui, le prêtre qui a donné sa vie, qui s'appelait Maximilien Kolb, il a été
canonisé.
Donc, je ne sais pas s'il est saint maintenant, mais il a été canonisé.
Donc, c'est sa foi, vous pensez qu'il a, c'est sa foi, vous pensez qu'il a conduit à se sacrifier, à donner sa propre
sans
vie
doute, ça a dû, sans doute. Mais je peux dire qu'on peut être aussi extrêmement généreux sans avoir la foi. Je pense que c'est, ça vient des tripes. Hein.
Ouais. Et c'est encore mieux en ayant la foi, parce qu'il était prêtre.
Ah oui, non, mais là, c'est oui, il avait aidé des juifs, donc il était déjà dans le don. Pour des gens qui étaient dans l'horreur. Et alors là, carrément, il a donné le don de lui-même, de son corps, avec l'horreur qu'il y avait autour. Donc, bon, c'est pas un tableau très facile, c'est vrai.
C'est vrai. C'est un tableau qui a le mérite d'exister, qui possède une histoire, qui fait et qui transmet une histoire.
Absolument. Et puis, il y a le côté positif qui me touche aussi. Et donc pour cette exposition, puisque c'était sur l'obscurité, en règle générale, je travaille sur donc l'obscurité et la lumière. D'une façon différente, je travaille sur la mort et la vie. Donc la vie se termine par la mort.
C'est la seule certitude de la vie.
Oui, mais ça repart vers une autre vie. Donc j'ai peut-être la foi aussi. Mais bon, c'est quelque chose qui me touche. Donc mon travail, je peux pas faire n'importe quoi. Il faut que ça parle avec mes tripes. Hein.
Exactement. Merci beaucoup, Annie.
Ouais, je vous en prie.